Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cet entretien mensuel diffusé simultanément sur Radio Lapourdi en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons revenir sur ce grand événement diocésain qui nous a rassemblés pour la Pentecôte et puis sur d'autres événements à venir pour notre diocèse, un peu d'actualité et puis les propositions pour cet été puisque nous nous retrouverons ensuite pour notre prochaine émission à la rentrée. Alors déjà un premier retour, Monseigneur, sur cette grande journée qui a rassemblé les laïcs du diocèse. C'était le 8 juin dernier, environ 1500 personnes qui étaient là pour cette grande journée à Pau, à l'ensemble scolaire Immaculée Conception. Il faisait beau, il faisait chaud. Quel bilan est-ce que vous portez sur cet événement qui donc a marqué les cœurs et les esprits?
D'abord, c'était la première fois que nous le faisions au Béarn, puisque jusqu'à présent, comme vous le savez, c'était à Notre-Dame du Refuge en Anglette. Évidemment, c'était davantage la côte basque et le Pays basque qui étaient massivement représentés. Cette année, c'est davantage sans doute les Béarnais, même si je vois qu'un centre de basques et de prêtres basques sont venus nous rejoindre l'après-midi. Je veux d'abord remercier tous ceux qui ont porté ce projet et son organisation sous la houlette de Monsieur l'abbé Lionel Landard, hein, qui a, avec ses collaborateurs et collaboratrices, a fait un remarquable travail d'organisation, et faut reconnaître que le chapiteau, le site, l'organisation de la journée était absolument quasiment parfaite. Et puis remercier tous ceux qui ont vraiment joué le jeu de ce rassemblement diocésain, et il y avait quand même beaucoup de fidèles. Vous avez parlé à peu près de 1500 au cours de la messe l'après-midi. Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Il y avait toute une organisation aussi en lien avec le service diocésain de la catéchèse pour les enfants, chose très appréciée. Écoutez, l'Emmanuel avait même préparé un petit spectacle pour les enfants pendant que nous étions sous le chapiteau pour la conférence du père Bernard Peyrousse. Bon, tout ça était de haute tenue. Et donc je ferai un bilan plutôt positif. Ce genre de rassemblement est important pour manifester la joie de croire et la joie de croire ensemble, hein, et de constituer ensemble une belle communauté ecclésiale.
Alors lors de la messe de Pentecôte, vous avez confirmé 40 adultes du diocèse. Qui sont-ils? Et je pense que c'est quand même différent de confirmer que de confirmer des adolescents.
Oui, c'est sûr que d'abord on note que le chiffre le nombre est en progression. Hein. Jusqu'à présent, on confirmait pour la Pentecôte une vingtaine d'adultes. Cette année, c'était 40, dont 6 à 7 grands lycéens. Et bon, c'est toujours un très grand moment. Je remarque en effet que et c'est un des signes de vitalité de notre diocèse, que dans toutes les paroisses, dans beaucoup de communautés, ce souci que l'on a des recommençants qui frappent à la porte. Je me rappelle dans une paroisse visitée où j'ai fait une confirmation d'enfants, je crois que c'est la paroisse de Gand, où le curé me parlait de deux jeunes pères de famille qui venaient à la messe à nouveau et qui n'avaient pas fait leur première communion et qui se sont mis à préparer à 40 ans une première communion. Donc je trouve que tout ça est un signe de la sollicitude de nos prêtres, de nos communautés, pour tous ces chrétiens du seuil qui frappent à la porte et qui ont des vraies demandes spirituelles et sacramentelles. Je crois que c'est un signe des temps qu'il faut savoir lire chez beaucoup d'adultes aujourd'hui, dans un monde qui est plus difficile, où on est plus facilement désorienté, hein, par la multiplicité des propositions qui s'entrechoquent dans la société d'aujourd'hui, bien de voir qu'il y a de plus en plus d'adultes qui sont touchés par le Seigneur et qui demandent à entrer dans une démarche profondément spirituelle. Donc 40 adultes, c'est vrai qui ont un parcours absolument souvent inattendu. Je pense en particulier à un jeune adulte de 32 ans qui est un universitaire et qui a grandi dans un monde anticlérical, même marxiste militant, qui lui-même est devenu marxiste militant et portant cela au niveau idéologique, intellectuel, et qui a été touché par la grâce à travers des rencontres, et finalement un curé, et puis une communauté religieuse, et lui-même a fait un chemin extraordinaire, et aujourd'hui il veut témoigner de Jésus-Christ, quoi. Donc c'est le signe tangible de la grâce de manière très ordinaire dans nos communautés, à travers tous ces adultes qui ont été confirmés. Différence avec les enfants, sans doute, même si je suis frappé de plus en plus, à travers les lettres et les rencontres que j'ai avec ces jeunes adolescents, de leur capacité aussi à ouvrir le cœur à une dimension spirituelle, et ce besoin, cette soif d'intériorité qui m'est confirmée aussi par les prêtres et les animateurs au cours de retraites qu'ils font à Belloc ou à Maëlys ou à Lourdes, disant ben, ces temps d'adoration sont bénis, ces enfants entrent facilement dans le silence, et comme s'il y en avait un besoin. Et je vois de plus en plus de confidences d'enfants qui parlent de leur vie de prière dans leur demande de confirmation.
C'est peut-être aussi parce que ces enfants, ces adolescents, en fait, qui vont jusqu'à la confirmation, ils sont peut-être aussi accompagnés plus par leurs parents pour aller jusqu'à la confirmation.
Et ce qui n'est pas forcé, même si de fait ils sont quand même accompagnés par leurs parents, mais les parents ne sont pas toujours partie prenante, et c'est ça qui est étonnant. Ils sont touchés par les rencontres qu'ils ont à l'aumônerie ou les temps spirituels qui leur sont proposés. Je trouve qu'il y a une plus grande proposition spirituelle dans les paroisses et dans les groupes d'aumônerie pour ces jeunes.
Alors revenons à Diocèse en Fête, où le matin il y a eu donc un témoignage assez fort. Beaucoup de personnes en sont sorties très marquées. Donc c'était le témoignage de Virginie et Cyril Hanscherwerker qui ont été convertis à Rocamadour, donc ce jeune couple. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, personnellement? Est-ce que ça vous a touché comme d'autres dans l'assistance?
Alors moi, ça m'avait touché déjà parce que, sans les connaître eux-mêmes, j'étais en lien avec le recteur du sanctuaire de Rocamadour, donc, hein, et qui m'avait parlé avec beaucoup d'émotion et de ferveur de ce couple de jeunes. L'évêque de Cahors, Monseigneur Turini, avait suivi ça de très près et d'ailleurs les avait fait témoigner devant les prêtres au cours d'une journée de manière beaucoup plus brève que lors de notre journée diocèse en fête, et lui-même avait reconnu ce miracle, hein, dont ils nous ont rendu compte. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un petit peu merveilleux, hein, dans ce témoignage. On se dit, attends, faut pas en faire trop. Et en même temps, quand on voit qu'ils sont vraiment en prise avec la vie, que ce sont des jeunes qui sont vraiment de leur temps, très enracinés dans une culture extrêmement éclatée qui caractérise beaucoup de jeunes trentenaires ou cadras aujourd'hui, on est en effet très touchés, hein.
Je rappelle juste le miracle. Virginie aurait retrouvé sa virginité après une vie un peu dissolue, c'est cela?
Voilà, retrouver sa virginité après avoir connu une vie, en effet, amoureuse un peu tumultueuse, et en même temps avoir connu l'épreuve de l'avortement, hein, et puis même l'épreuve de l'inceste quand elle était plus jeune. Et donc je pense que c'est très important de voir aussi le chemin du Seigneur dans les âmes et les cœurs, indépendamment de ce miracle, attesté par une gynécologue, quand même, d'abord bouddhiste, qui finit par se convertir à cause de ça à la foi chrétienne, donc c'est quand même assez intéressant. Je crois que c'est surtout le chemin intérieur qui est fait. Il n'y aurait pas ce miracle. La conversion de quelqu'un est toujours miraculeuse, et il n'y a rien de plus que les bonnes parts des adultes que nous avons confirmés cet après-midi-là.
Le point d'orgue de cette journée de Pentecôte était la consécration du diocèse au cœur de Jésus, au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de la Vierge Marie. Alors, quels fruits en espérez-vous?
Alors, les fruits dépendront de ce qui a été semé pendant tout le temps de la préparation, qui a été évidemment diverse, hein, ici ou là, diversement accomplie par les communautés, par les fidèles, de manière personnelle, familiale, communautaire, paroissiale et autres. J'en attends nécessairement beaucoup de fruits, pour ceux en particulier qui l'ont fait avec beaucoup de cœur. C'est vrai que les fidèles sont quand même venus en masse pour cette messe de Pentecôte, au cours de laquelle on a accompli cet acte de consécration, où chacun avait sa part, à chacun sa place, qu'on soit prêtre, ministre ordonné, qu'on soit séminariste, qu'on soit consacré, qu'on soit laïc engagé, qu'on soit engagé dans la vie de famille en particulier. Je pense que il n'aura échappé à personne la ferveur et l'intensité de cette démarche, qui sans doute a été préparée aussi par beaucoup à travers le pèlerinage des reliques de Sainte-Marie de Marie-la-Coque ou autre, et pas forcément seulement de cette manière-là. J'en attends, comme je l'ai déjà dit, d'abord une plus grande, un approfondissement de la consécration baptismale, car c'est quand même ça le but. Nous sommes baptisés, nous appartenons à Dieu. Je pense à cette formule de, au cours de ma dernière visite pastorale, de l'abbé Bernardin Dunat, qui a accompagné qui a entraîné les enfants pour cette journée de clôture du catéchisme que j'ai présidé, du coup, au cours de cette visite pastorale mémorable, et qui leur avait donné une petite image avec une pierre, avec leur nom inscrit dessus en disant, vous êtes des pierres vivantes qui appartiennent à Jésus pour construire l'Église. C'est toute la spiritualité du baptême est là. Hein. Nous appartenons à Jésus par Marie que Jésus nous a donné pour mère, et donc ben, c'est tout notre être, toutes nos potentialités humaines, physiques, morales, intellectuelles, spirituelles, qui appartiennent à Jésus. Et toute une vie baptismale ben, est un travail de pour appartenir toujours plus, pour se consacrer toujours plus, et pour attendre aussi de lui, parce que nous lui appartenons, ben, qu'il soit le premier acteur de nos vies, de notre histoire, en particulier à travers les épreuves que nous pouvons connaître. Ben, j'en attends évidemment ces fruits d'un plus grand engagement chrétien, des prêtres, des fidèles, dans l'appartenance donc au Christ, dans la mission et dans l'abandon entre les mains du Seigneur qui guide son Église et qui sauve. C'est lui qui sauve.
Donc un bilan positif pour cette journée diocèse en fait. Donc c'est la troisième édition. Est-ce que l'année prochaine il y aura une autre journée du même type?
Alors il y aura sans doute une journée diocèse en fait, mais qui tournera autour de, nous l'espérons, la béatification du père Louis-Édouard Sestac. Voilà. Donc ce sera une autre manière de faire la fête avec un nouveau bienheureux qui vient de chez nous.
Nous en reparlerons dans quelques instants, Monseigneur. Nous marquons une pause.
Monseigneur Ayen, nous vous retrouvons pour cette émission mensuelle. Donc nous venons d'évoquer la béatification du père Louis-Édouard Sestac qui normalement est prévue pour l'an prochain puisque le Vatican vient de publier son décret avec un miracle attribué au vénérable Louis-Édouard Sestac. Donc pour nous c'est très important puisque c'est le fondateur de la Congrégation des Servantes de Marie qui sont à Anglette, à Notre-Dame du Refuge. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette béatification? Est-ce que on sait déjà comment ça va se dérouler, à quel endroit? Comment est-ce que notre diocèse va s'y préparer?
Voilà, comme vous le savez, c'est quand même le terme d'un long chemin, et en particulier depuis que Mgr Moller, mon prédécesseur, ainsi que Mgr Breton, l'évêque émérite d'Eredax, avaient trouvé en 2007 ou 2008 ce fameux dossier du miracle qui n'était pas parvenu à Rome. Et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un chemin que j'ai accompli quant à moi quand je suis arrivé avec le postulateur et la vice-postulatrice de la cause, sœur Louisette Sabat, qui a énormément travaillé pour cette itère canonique de reconnaissance de ce miracle. Alors c'est le pape Paul VI hein, qui, en 1976, avait reconnu l'héroïcité des vertus du père Sestac, et donc qui lui a donné le titre de vénérable. Hein. Il fallait donc un miracle reconnu par l'Église pour qu'on puisse franchir l'étape de la béatification. Ce miracle datant de 1941, qui s'est passé à Dax, mais en 2007, on se rend compte que le miracle, le dossier n'est jamais parvenu à Rome. Donc il a fallu refaire tout ce chemin. Et vous voyez, il a fallu à peu près 7 ans pour que nous puissions parvenir enfin à franchir toutes les étapes qui sont assez exigeantes.
Ça a été plus rapide pour Jean-Paul II.
Alors, ça a été plus rapide pour Jean-Paul II, sans doute parce que, d'abord, le pape Benoît XVI avait accéléré la procédure, hein, écourté le délai de mise en œuvre de ce procès, et peut-être parce que la personnalité de Jean-Paul II, l'universalité de sa mission, a sans doute obtenu plus de collaborateurs pour y travailler. C'est vrai que le père Sestac, le postulateur, n'était pas sur place. Comme me l'a dit le sous-secrétaire de la Congrégation pour la cause des saints, maintenant on exige que le postulateur de la cause soit à Rome, parce qu'il y a un va-et-vient avec la Congrégation qui est incessant, parce que justement c'est très sérieux, ce sont des enquêtes absolument rigoureuses, où tout est passé au crible, des témoignages positifs comme des témoignages négatifs, et il faut pouvoir poser un discernement qui soit le plus objectif possible. Et c'est la raison pour laquelle ça a été plus long, parce que nous, on n'a pas eu les moyens de faire en sorte que le postulateur soit sur place à Rome.
Alors les béatifications se passent dans les diocèses maintenant?
Alors c'est Benoît XVI qui a redonné au diocèse la compétence de la béatification, qui avait confisqué d'une certaine manière Paul VI, qui avait décidé que toute béatification de canonisation passait à Rome par le pape. C'est évidemment le pape qui décide en dernière analyse, mais il a à nouveau redonné la compétence au diocèse, ce qui est une très belle chose parce que ça permet vraiment de comme la béatification engage une dévotion qui sera locale et pas encore universelle, ça paraît tout à fait logique que ce soit dans le diocèse que la béatification soit célébrée et proclamée par le légat du pape, qui généralement est d'ailleurs le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, aujourd'hui le cardinal Amato.
Qui sera donc présent le jour de la béatification?
Alors normalement, évidemment, c'est lui. Pour l'instant, il m'a donné sa disponibilité. Vous savez que c'est quand même... Il faut suivre les formalités, pas les anticiper. Aujourd'hui, nous savons, en effet officiellement, que la béatification, rien ne s'oppose maintenant à la béatification, puisque le pape a ordonné la publication du décret de reconnaissance du miracle, donc ça c'est acquis. Maintenant c'est au pape de nous donner le lieu et la date. On lui a fait des suggestions, officieusement au cardinal Amato qui a donné sa disponibilité. Je ne peux pas en dire plus tant que je n'ai pas la réponse officielle, mais ce qui est sûr c'est que ça aura lieu en 2015 et qu'on prendra le temps de préparer cette béatification, qui tombe à point nommé, puisque c'est aussi l'année de la vie consacrée, qui va s'engager à partir du mois de novembre prochain. Donc l'année pastorale prochaine sera une année de la vie consacrée, et avec une figure particulière d'un prêtre qui n'est pas un religieux, mais qui a fondé une congrégation religieuse.
Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que ce prêtre, qui a été vicaire à la cathédrale de Bayonne, sera béatifié? Quelles sont selon vous les lignes forces de la sainteté du père Louis-Édouard Sestac?
Bon, d'abord, certainement, c'est une sainteté au quotidien, hein, d'un saint prêtre qui a vécu au maximum, par l'héroïcité de ses vertus, sans doute, avec dévouement son ministère sacerdotal. Mais ce qui est, je dirais, il y a deux points qui sont centraux dans la vie du père Sestac. D'abord, c'est son charisme marial, c'est-à-dire l'abandon de tout lui-même à la Vierge Marie, hein, depuis cette rencontre de Buglose, dans laquelle il venait demander 50 000 francs de l'époque pour acheter une maison que 50 000 francs que tout le monde lui refusait, en disant « Sainte Vierge Marie, il n'y a que vous qui pouvez m'obtenir ces 50 000 francs ». Et la Vierge lui répond « Ne me demande que mon esprit ». Et il va vivre à la lettre cette indication et cette recommandation de la Vierge Marie, en essayant de vivre vraiment l'esprit de la Vierge Marie, toutes les vertus de la Vierge Marie. Donc ça, c'est certainement le premier mobile de sa sainteté. Et puis le deuxième mobile, c'est évidemment le caractère extrêmement social, hein, de sa mission, qui, sans réfléchir et sans idée préconçue et sans projet particulier, commence en pleine révolution industrielle à Bayonne au XIXe siècle, alors qu'il n'était que vicaire de la cathédrale pendant très longtemps. Eh bien, il va s'occuper de recueillir les orphelines qui sont là dans la rue, les prostituées qui viennent du labour pour essayer de trouver un travail, ne trouvant pas, font commerce de leur corps, et petit à petit, il les rassemble avec sa sœur Élise, qui certainement sera béatifiée un jour, puisque son procès est aussi ouvert. Et donc, il petit à petit va organiser cette œuvre, et il va fonder une congrégation avec les filles qui veulent s'occuper de ces orphelines. Même, il va ouvrir une branche contemplative sui generis, tout à fait unique et singulière, avec des prostituées repenties qui lui demandent à faire plus et à consacrer leur vie dans la contemplation. Ce sont les Bernardines d'aujourd'hui. Et il va acquérir un grand domaine à Anglette, dans les sables et les marécages, où il va être innovant sur le plan agronomique, après avoir cherché des formules tout à fait inventives pour pouvoir travailler la terre et faire travailler la terre à ses filles, etc. On peut dire qu'il a été un champion de la promotion féminine, par l'éducation des filles aussi, il a ouvert des écoles, de la vie religieuse, du don de soi aux autres, du désir de d'endiguer un peu les précarités de son époque, etc. Donc je pense que c'est vraiment un témoin pour notre temps.
Le 2 juin dernier, nous restons à Anglette, à Notre-Dame du Refuge, vous avez posé la première pierre de la nouvelle maison de retraite. Alors pourquoi cette maison de retraite?
Alors j'ai participé en effet à la pose de la première pierre, comme vous le savez, pour l'avenir de nos prêtres âgés. Il se trouve que nous avons bien réfléchi que un centre de prêtres seront plus nombreux dans les années qui viennent a demandé à intégrer une maison de retraite. Nous en avons une magnifique à Cambo, hein, qui est la maison Arditeia, où les prêtres sont en effet très heureux pour cette dernière étape de leur vie. Mais il se trouve que la liste d'attente vont augmenter, qu'aujourd'hui même il y a des prêtres qui n'intègrent pas encore le pavillon des prêtres, mais sont dans la maison de retraite à côté du pavillon des prêtres. Et cette proposition nous a été faite par les servantes de Marie, de pouvoir accueillir dans des unités de vie de 10 lits, des prêtres qui voudraient terminer leur jour dans ce cadre magnifique et bien connu de nos prêtres diocésains de la Côte Basque, qu'est Notre-Dame du Refuge Anglaine, dans un esprit extrêmement chrétien, puisque c'est la maison de retraite des sœurs de servantes de Marie, qui est en plus au cœur de ce lieu dédié à Notre-Dame du Refuge, mais aussi au Père Sestac, qui est en prise directe avec le centre-ville d'Anglet, etc. Donc il nous a semblé que c'était pour l'avenir un bel investissement. Alors évidemment, comme il se doit, pour pouvoir avoir la garantie et la priorité pour nos prêtres pendant 15 ans, il faut qu'on y participe un peu financièrement. Voilà. C'est la raison pour laquelle on était partenaire de ce projet et que j'étais invité aussi à participer à la pose de la première pierre de cette nouvelle maison qui verra le jour, je pense, en 2016.
Autre événement diocésain, donc ce mercredi 25 juin, vous avez célébré une messe pour les jubilaires. Nous avons cette année 18 jubilaires entre 25 et 60 ans de sacerdoce. C'est un événement important pour notre diocèse de fêter ces jubilaires.
C'est toujours important de fêter les jubilaires parce que c'est associer le diocèse à l'action de grâce des prêtres pour la fidélité du Seigneur dans leur vie de prêtre. Et quand on voit des prêtres qui ont 50 ans, 60 ans de sacerdoce, comme beaucoup de ceux qui ont été honorés le 25 juin à la cathédrale, c'est quand même, surtout à une époque qui était troublée, vous savez, ce sont des prêtres qui ont traversé des périodes difficiles, où ils ont vu un certain nombre de leurs confrères quitter le ministère, hein, dans les années post-conciliaires, donc entre 68 et 75, il y a quand même eu beaucoup de départs, comme dans beaucoup d'autres diocèses, mais nous, comme on avait un clergé très important, donc il y a eu peut-être plus de départs qu'ailleurs, que dans d'autres diocèses, et donc ces prêtres-là qui ont vu leurs confrères, pour des raisons que nous n'avons pas jugées, quitter le ministère, eux, ils sont là, et ils ont traversé les tempêtes, et ils sont toujours vaillants, hein, comme je le dis, je suis dans un diocèse où les prêtres, à 60 ans de sacerdoce, peuvent être encore sur le pont. Hein. Alors que dans beaucoup d'autres diocèses, les évêques qui me disent, à 65 ans, 70 ans, les prêtres, ils aspirent à la retraite, point barre. Non, ici, ils sont vaillants jusqu'au bout. On a moins de jubilés d'argent, hein, essentiellement comme prêtre diocésain, c'est l'abbé Jean-François Sarbagnan, ça mérite donc d'être...
Donc 25 ans, c'est ça ?
25 ans, oui, donc ça risque d'être, ça mérite d'être signalé, mais vous voyez, hein, on a moins de jubilaires d'argent, parce qu'il y a eu quand même un effondrement des vocations, mais il y a quand même des prêtres de 50 ans, 60 ans de sacerdoce, il y en a même un qui va célébrer cette année, c'est 76 ans de sacerdoce, hein, qui célébrait l'an dernier ses 100 ans, et ses 75 ans de sacerdoce. Donc c'est important, et puis c'est un signe aussi pour les séminaristes qui regardent des prêtres fidèles, hein, qui ont d'ailleurs l'occasion, soit à travers la caravane des vocations, ou bien à travers l'insertion pastorale, de rencontrer sur le terrain. Ils voient des prêtres qui sont toujours heureux dans leur sacerdoce et qui sont dans l'action de grâce pour la fidélité du Seigneur tant aussi longtemps.
Monseigneur Haillé, vous avez visité deux paroisses récemment. Vous êtes allé en Béarn, à la paroisse Notre-Dame du Piémont à Son et à la paroisse Saint-Michel Garicoitz du Lagouin. C'était au mois de mai. Et puis vous avez visité dernièrement du 18 au 22 juin la paroisse Saint-Michel Garicoitz du Labour Cambo. Je crois que c'était votre 58e visite pastorale.
48e.
48e.
Vous voyez, je voudrais être plus loin encore, mais non, 48.
C'est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal, oui.
Sur 69 paroisses.
Oui. Donc je commence quand même à avoir une bonne appréciation du diocèse et voilà. Vous savez bien que mes visites pastorales, le grand objectif, c'est vraiment la rencontre, la reconnaissance pour toutes les vitalités, tous les engagements dans nos communautés paroissiales, et puis l'encouragement, hein, en ouvrant en partageant sur quelques perspectives missionnaires, parce que évidemment qu'on est tourné vers l'avenir, hein, et on sait bien que l'avenir ne s'annonce pas forcément radieux, étant donné les essoufflements, les désertions aussi en présence. Mais l'essentiel, c'est justement d'abord de rencontrer ceux qui sont engagés sur le terrain de nos paroisses, prêtres et laïcs, qui accomplissent leur mission avec beaucoup de générosité et souvent même d'inventivité, hein, là où ils sont, avec des moyens qui sont moindres qu'autrefois, non seulement en personnel, mais aussi en, j'allais dire, en publicité dans la société, ou en visibilité dans la société, parce que la société se laïcise aussi, elle s'organise autour d'autres centres d'intérêt que le centre d'intérêt de la foi. Et en même temps, elle reste très présente, surtout dans notre Pays basque, parce que, par exemple, là, la dernière visite pastorale que j'ai faite à Cambo, c'était la fête Dieu, Bechtaberri. Bon, ben, c'est sûr que c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable osmose entre la vie locale et la vie ecclésiale. Hein. Tout le village est là, les jeunes des comités des fêtes se costument pour accompagner le Saint-Sacrement et ils y tiennent. Pas forcément pour des raisons très profondément ancrées dans la foi, mais ceci dit, ils sont là. Et donc, c'est un lieu de mission aussi, où ils peuvent entendre la parole et être touchés par le Seigneur. Donc ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Donc, cette visite pastorale, c'est donc une vraie rencontre avec les personnes. En immersion, je partage leur vie. Bon, avec la simplicité, je sais bien qu'ils mettent les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire d'ailleurs parce que c'est souvent assez gastronomique. Ils sont heureux de recevoir leur évêque. Et moi, je suis pleinement heureux de me trouver au milieu d'eux, de partager avec eux, d'écouter ce qu'ils font, ce qu'ils disent, d'aller rencontrer des entreprises, parce qu'il y a aussi les réalités humaines qui sont souvent très riches, hein, et très diversifiées dans ces différentes paroisses. Ce que je retiens de ma visite pastorale dans la partie la plus orientale du diocèse, donc en Béarn, à Coaraz et à Son, j'ai été frappé de l'esprit missionnaire qui caractérise un peu tous les groupes, et avec des petites innovations. Je pense en particulier à une équipe Diaconia qui porte le souci de cette proximité aux pauvretés du milieu environnant, dans les familles, et qui se dit comment est-ce qu'on va faire pour rejoindre ces gens qui, avec pudeur, se cachent derrière leurs murs et leurs maisons, et ne sont pas forcément en contact avec les grands organismes caritatifs, mais comment est-ce qu'on va s'approcher d'eux, non pas seulement pour leur dire « on peut vous apporter quelque chose », mais « on a besoin de vous ». Voilà, donc ça c'est un frémissement, mais je trouve que c'est magnifique. Et puis, je pense aussi à un groupe de recommençants, dans le cadre de la catéchèse, par la rencontre des familles, des parents, un groupe qui se réunit une fois par mois pour réfléchir aux fondamentaux de la foi. Bon, bah, c'est de cadras, ça, c'est tout ça, c'est plein d'espérance. Tout ça, c'est très modeste, mais je crois que le Seigneur a toujours... C'est la parabole du semeur, et le Seigneur a commencé avec très peu. Ça mérite d'être encouragé. À Cambo, moi, je suis arrivé évidemment dans une paroisse du Pays basque où évidemment il y a parfois encore plus de vitalité visible, hein, à travers les enfants du catéchisme, les écoles catholiques, qui dans cette paroisse sont assez nombreuses, 4 écoles primaires, un collège, avec des chefs d'établissement très engagés, y compris du point de vue pastoral, point de vue éducatif bien sûr, et du point de vue pastoral, avec une organisation qui est belle. Il y a une rencontre avec tous les actifs de la paroisse qui font quelque chose quand même avec beaucoup de détermination. Et voilà, je pense que j'étais frappé surtout par toute cette vitalité autour du monde des enfants, de l'école, des jeunes. Et puis aussi les assemblées que j'ai rencontrées, l'osmose aussi avec les élus, qui sont très présents aussi dans la vie de la paroisse, les prêtres, qui sont 3 et dont 2 qui ont dépassé la limite d'âge et qui sont plus que vaillants, qui manifestent un enthousiasme qui touche beaucoup de gens, hein, les enfants, les jeunes. Mais là, c'est encore tout chaud parce que j'en reviens à peine, donc il faudra que je prenne un peu de temps pour faire le bilan.
C'est la fin de l'année, Monseigneur, un petit bilan rapide sur le séminaire et puis sur l'Institut Samuel, donc cet institut qui accueille des jeunes garçons. Quel bilan pour cette année? Et puis est-ce qu'on recherche toujours un directeur pour cet Institut Samuel?
Bien sûr. Alors pour ce qui est du séminaire, elle continue sa progression avec sans doute une extension qui va se mettre en place dans l'année qui vient. Les séminaristes ont de leur progression. Il y a 2 séminaristes qui ont été admis comme candidats aux ordres sacrés lors de la messe des jubilaires. J'ai ordonné un diacre, comme vous savez, au mois de mai. Voilà, d'autres qui continuent, qui vont partir en stage. Enfin bon, donc ça, c'est la vie du séminaire qui continue. L'Institut Samuel nécessite, après concertation avec les acteurs actuels de l'Institut Samuel, quelques aménagements, et il nous est apparu plus sage de libérer le prêtre pour une fonction spirituelle, d'accompagnement spirituel sacramentel de cet institut, ce qu'il fait admirablement d'ailleurs, hein, l'abbé Jean Aguet-Sabal, et de recruter un directeur laïque qui assurera plus la question de la discipline, de l'organisation pratique de la maison, de manière que dans cette collaboration, bien, on puisse accueillir davantage de jeunes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on avait plus de jeunes que l'an dernier, sans doute, mais on a un internat qui peut accueillir une trentaine de jeunes. Et donc je crois qu'il faut viser à rentabiliser, si je puis dire, pas seulement sur le plan financier, mais surtout sur le plan de la proposition éducative et spirituelle ou pastorale, cet institut qui peut être un tiers-lieu éducatif très important aujourd'hui. Hein. Comme je vous savez que l'une de mes obsessions, si je puis dire, c'est la pastorale des vocations. Je crois que la première expression de la charité pastorale du Christ dans l'Évangile, c'est de vouloir donner des pasteurs à son peuple, qui sont comme des brebis sans berger, à travers la prière pour les vocations en particulier, le témoignage des prêtres, dans leur fidélité, leur générosité, à accomplir leur ministère, et aussi des tiers-lieux éducatifs qui permettent, dans un monde difficile aujourd'hui, pour des jeunes, de vraiment se poser la question et d'enraciner leur foi chrétienne. Je note que dans notre diocèse, les vocations venaient habituellement des familles, sans doute, des paroisses, des établissements seulement catholiques, des mouvements, et qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'est notre souffrance de voir que nos paroisses, nos établissements sont catholiques, nos mouvements donnent moins de prêtres. Donc il n'y a pas de reproche à faire, il y a à se dire, c'est l'organisation de la société qui est telle que c'est plus difficile. Donc il faut peut-être trouver, être inventif, et ce genre de tiers-lieu éducatif, d'internat catholique, dans lequel des jeunes vont pouvoir se poser dans une vie chrétienne, peut permettre une éclosion de vocation sacerdotale, mais aussi de vocation chrétienne tout court, hein, à la vie de famille, pour transmettre la foi, car la famille est le premier lieu de la transmission de la foi, etc., etc.
Nous allons aborder quelques sujets d'actualité maintenant, Monseigneur. Tout d'abord, votre sentiment sur le résultat des élections européennes qui ont eu lieu le 25 mai dernier, et où en France, en tout cas, c'est le parti du Front National qui a été désigné en tête de tous les partis de notre pays.
Alors c'est sûr que il faut d'abord dire que la participation aux élections européennes a été très très moindre encore que d'habitude. Hein. Le grand vainqueur quand même des élections européennes, c'est l'abstention. Donc je crois que c'est ça qu'il faut dire en premier. Ça veut dire que pour beaucoup de citoyens, une sorte de désamour pour des institutions qui leur sont très lointaines. Et c'est la raison pour laquelle peut-être ils votent d'une manière moins précise et moins attentive que pour des élections immédiatement locales, hein, ou même nationales. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on voit, c'est quand même une sorte de désamour aussi pour les partis politiques, d'une manière générale, hein, qui favorisent toujours des partis plus nouveaux, qui sont moins en prise directe avec le pouvoir. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les partis traditionnels de gouvernement sont-ils sanctionnés? J'en sais rien, je suis pas un politologue averti, mais en tout cas, ils attirent moins les électeurs. Bon. Donc, et puis peut-être aussi que le discours sur l'Europe n'est plus tout à fait lisible pour beaucoup de citoyens qui voit s'éloigner les prises de responsabilité et les prises de décision, plus exactement, concernant la vie des citoyens de l'Europe, de leurs préoccupations quotidiennes, qui pour autant ne changent pas, et pourraient, pour certains, s'alourdir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que le pape répondait au journaliste, c'est d'ailleurs le journaliste de la Croix qui parlait au nom des francophones, dans l'avion qui le ramenait de Terre Sainte le lendemain des élections européennes, dont il n'avait pas eu beaucoup d'écho encore, parce qu'il était immergé complètement dans la situation d'Israël et de la Palestine. Mais il parlait de l'Europe, comme il l'a redit récemment, comme une Europe un peu déboussolée, qui a remis, qui ne met plus l'homme au centre du système économique, mais qui met l'économie au centre, où on connaît une certaine culture du déchet, en particulier, disait-il, le rebut, le rejet des jeunes, avec l'inquiétante baisse de la natalité dans la plupart des pays européens, qu'il a répété à plusieurs reprises, la culture du déchet des personnes âgées aussi, avec des lois sur l'euthanasie qui se préparent, c'est lui qui parle, hein, il l'a redit à plusieurs reprises, en disant que l'idolâtrie de l'argent était trop au centre de l'Europe et que l'Europe devait retrouver ses racines chrétiennes. Voilà, c'est ce supplément d'âme que l'on voudrait sans doute pour l'Europe, d'où pourrait découler aussi un mieux-être social et spirituel.
Monseigneur Hayet, nous vous retrouvons pour notre émission de fin d'année. Un mot sur un sujet brûlant d'actualité, la fin de vie, avec ces deux affaires. Nicolas Bonnemaison, médecin urgentiste à Bayonne, qui a été accusé d'avoir abrégé la fin de vie de sept personnes et acquitté le 25 juin. Et puis l'affaire Vincent Lambert en état possier relationnel, dont le Conseil d'État a préconisé d'arrêter l'alimentation. Décision suspendue pour l'instant par la Cour européenne. Alors qu'avez-vous à dire sur ces deux affaires et plus largement sur le climat qui règne en France en ce moment où on le sent, une législation en faveur de l'euthanasie semble se préparer?
En tout cas, d'abord, je parlerai surtout de l'affaire locale qui est le procès Bonnemaison, qui a occupé le devant de la scène médiatique pendant près de 12 jours. Et je crois qu'il faut d'abord bien distinguer le cas Bonnemaison, et ce débat national qui s'est invité au cours de ces jours, avec évidemment la puissance offensive de bien des lobbies qui veulent promouvoir l'euthanasie, comme on le sait dans notre société française.
Ouais, affaires se mélangent dans les esprits, en fait.
Les deux affaires se mélangent, mais l'affaire Bonnemaison, évidemment, nous marque plus particulièrement dans notre département. Et je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux. Bien sûr que je ne peux pas douter de la probité des jurés qui, en leur âme et conscience, ont décidé d'acquitter le docteur Bonnemaison pour des raisons qui sont en doute liées à des circonstances atténuantes de ce médecin avec les fragilités psychologiques que nous connaissons. Il reste quand même que, comme cela a été dit à plusieurs reprises pendant ce procès, il a transgressé gravement la loi, hein, en donnant la mort, d'une certaine manière, à ces sept personnes qui n'avaient rien demandé, sans accord collégial. Et bon. Mais ceci dit, on peut plaider en effet pour des circonstances atténuantes, comme l'ont fait sans doute les jurés, aussi sous la pression du tapage médiatique qui a entouré ce procès. L'euthanasie, c'est autre chose, c'est un autre débat qui s'est invité. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que je craindrais que l'on instrumentalise ce cas particulier du docteur Bonnemaison au profit d'une légalisation accélérée de l'euthanasie sur un contexte quand même très émotionnel et qui nécessite beaucoup de réflexion. Et sur ce point, je suis bien obligé de redire ce que dit l'Église et ce qu'a toujours dit l'Église, mais l'Église rejoint la conscience humaine et ne le dit pas seulement au nom de principes qui seraient d'ordre confessionnel, déjà bien inscrit d'ailleurs dans la loi Leonetti, qui d'ailleurs est une loi qui est bonne et bien équilibrée, cette loi de 2005 qui semble être remise en cause aujourd'hui, qui consiste à dire ni euthanasie, c'est-à-dire ni acte explicite de mort pour résoudre le problème de la souffrance d'un malade en phase terminale ou d'une personne en fin de vie, ni acharnement thérapeutique. Vous savez que c'est l'Église qui, la première, a condamné l'acharnement thérapeutique par la voix du pape Pie XII en 1957, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Et c'est d'ailleurs ce que préconise la loi Leonetti en favorisant au contraire les soins palliatifs. Et donc oui aux soins palliatifs. On dit la loi Leonetti est insuffisante, insuffisante parce qu'elle était insuffisamment appliquée. Et c'est vrai que les soins palliatifs, sans doute, c'est un coût. Je pense qu'on met peut-être trop facilement dans notre Europe d'aujourd'hui, comme le dénonce souvent le pape François, la personne humaine et sa dignité, aux marges du système économique qui prend toute la place. Les soins palliatifs sont le moyen non seulement de calmer la douleur, car on arrive aujourd'hui, grâce aux analgésiques que l'on met en place, à calmer vraiment la douleur des malades en phase terminale, et surtout d'apporter un environnement humain de solidarité, d'amitié, de compassion par la présence humaine. Vous savez en effet que le grand drame de notre temps, c'est que plus de 70% de Français meurent à l'hôpital seuls. Ça veut dire quelque chose sur l'aspect, on parle beaucoup de Vincent Lambert qui serait possi relationnel, comme on l'a dit beaucoup, mais c'est la société qui est aussi relationnel et qui est malade de la relation. Et je crois que c'est ça qu'il faut promouvoir. Les soins palliatifs permettent en effet de développer dans notre société une vraie chaîne de solidarité autour des personnes les plus fragiles. Et en particulier cette présence humaine, cette présence familiale auprès des malades en phase terminale ou des personnes en fin de vie, qui leur permet de reconnaître eh bien que leur vie a encore un sens, même si elle est très dépréciée au regard de l'utilitarisme de notre société d'aujourd'hui et de cette excellence qui gagne un peu les esprits dans un sens un peu très compétitif. Je crois que c'est très important de dire que quand les personnes sont entourées par des soins palliatifs qui sont appliqués avec beaucoup d'attention humaine, beaucoup d'humanité, elles ne demandent pas l'euthanasie.
Donc dans ces deux affaires, la loi Leonetti, selon vous, est-ce qu'elle est respectée ?
Je pense que dans l'affaire Lambert, c'est un cas très limite. Moi, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas dire précisément. Je pense que il peut être une petite ambiguïté dans la loi Leonetti qui serait de dire que l'hydratation et la nutrition en fin de vie seraient équiparées des traitements, alors que ce sont des soins de base. Et donc, on peut, pour ne pas commettre l'acharnement thérapeutique, arrêter des traitements qui seraient disproportionnés par rapport à l'effet escompté, étant donné la souffrance que représente l'état du malade. Mais arrêter les soins de base, c'est plus délicat. Encore que là, je crois que c'est un cas vraiment d'école. Et je rappelle encore une fois, comme pour Bonne Maison, comme pour l'affaire Lambert, ne faisons pas de cas particuliers, de cas d'école, entourés par un grand tapage médiatique émotionnel, une raison de légiférer de manière générale sur l'euthanasie, qui reste un acte de mort pour résoudre la souffrance d'une personne qui a le droit de mourir vivant, c'est-à-dire aimé, et donc dans la dignité.
Monseigneur, le 9 juin dernier, juste après Diocèse en fête, vous avez enchaîné sur un pèlerinage qui vous tient à cœur, c'est le pèlerinage à Chartres. Pour le lundi de Pentecôte, vous y étiez avec Notre-Dame de Chrétienté. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots ce pèlerinage ?
Alors, qui me tient à cœur ? Je ne sais pas s'il me tient à cœur, c'est la première fois que j'y allais, vous voyez, donc je ne suis pas un habitué de ce pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. J'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Une fois, un lundi de Pentecôte, quand j'étais prêtre dans le diocèse de Blois, pour confesser. Mais je n'y ai jamais participé, effectivement. J'y étais invité, comme d'autres évêques. Hein. Précédemment, c'est Mgr Romoni, évêque de Versailles, qui avait été invité. Mgr Brouvet est allé. Mgr Breton était allé présider cette messe. Et en fait, l'évêque de Chartres tient à ce que, au moins une fois tous les deux ans, ce soit un évêque diocésain qui soit invité à présider ce pèlerinage. Bon, donc ils m'ont invité, je suis venu très volontiers, accueilli par l'évêque de Chartres, l'évêché d'abord, et qui lui-même d'ailleurs accueille les pèlerins à l'entrée de la cathédrale. Alors c'est vrai que c'est un pèlerinage qui devient assez impressionnant. Vous avez 10 000 personnes, moyenne d'âge 21 ans, donc beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui viennent de partout, d'ailleurs qui ne sont pas particulièrement drainés dans la vie ordinaire par la fraternité Saint-Pierre. Une grande partie, peut-être même plus de la moitié, des participants au pèlerinage de chrétienté ne sont pas des habitués ou des accros de la forme extraordinaire. Hein. C'est les mêmes que vous rencontrez à Paray-le-Monial l'été pour les sessions animées par le côté de l'Emmanuel. Mais c'est vrai que c'est un temps fort spirituel, manifestement. C'est une marche de 95 km dans des conditions qui sont assez spartiates, mais je crois bien dont l'organisation est parfaitement rodée aujourd'hui. Avec un encadrement assez... et qui se termine par cette grand-messe dans cette cathédrale magnifique de Chartres, hein, joyau de l'architecture gothique, et romane et gothique, et avec à peu près 10 000 personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale. Donc je crois que c'est un signe fort que, même si c'est organisé par la Fraternité Saint-Pierre, mais qui est en pleine communion avec l'Église, il y a un évêque diocésain, d'abord l'évêque de Chartres, qui préside toute la cérémonie hein, à sa cathèdre, même si c'est moi qui célébrais, qui présidait l'Eucharistie, mais c'est lui qui est sous sa juridiction, si je puis dire, et de pouvoir donner un beau message fort au bout de 3 jours de pèlerinage pour une toujours plus grande insertion dans l'Église et pour relever le vrai défi de l'Église aujourd'hui, qui n'est pas d'abord un défi liturgique, même si c'est important, qui est un défi missionnaire. Hein, comme je ne cesse de le dire moi-même, je voudrais bien que ce soit entendu, que ma première préoccupation, c'est la mission. La liturgie étant la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église, comme nous l'a bien dit le Concile Vatican II, hein, qu'il ne s'agit pas de déconnecter. L'action déborde de la prière, et ce qui est premier, il n'y a pas d'action plus importante que l'action liturgique, mais c'est le défi de la mission, et c'est vraiment à partir de là, aller aux périphéries, quoi.
Nous revenons dans le diocèse, Monseigneur. Le 14 juin dernier a eu lieu à Bayonne une manifestation autour des droits de l'homme, de la résolution du conflit au Pays Basque pour la paix, et notamment avec la revendication du rapprochement des prisonniers politiques basques. Quelle est la parole de l'Église ? Y a-t-il une parole de l'Église ?
Il y a une parole de l'Église, bien sûr, pour la défense des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine. Hein, ça, c'est une évidence. Il y a une parole d'encouragement que j'ai eue il y a déjà 2 ans, hein, pour un processus de paix à partir du moment où l'ETA a pris la décision publique de renoncer à la violence, hein, et aux armes. Donc il y a un souci de tous, y compris des prisonniers, hein, qui sont loin de leur famille. Et donc je pense que ce processus de paix est en marche. Cette année, je n'ai pas pensé juste de signer, hein, l'engagement, la manifestation du 14 juin, là, ça ne veut pas dire du tout que je m'en désintéresse, et je n'ai pas d'opposition par rapport à cela, mais je l'ai fait en concertation avec les autres évêques du Pays Basque, qui ne l'ont pas fait non plus. Je pense qu'il y a une nécessité, et c'est ça les droits de l'homme, hein, de ne faire exception de personne. Je crois qu'en Espagne, en particulier du côté espagnol, puisque on veut absolument que cette manifestation soit unitaire, hein, du sud, du Pays Basque sud et nord, je crois qu'il y a encore beaucoup de difficultés, de souffrances de la part des familles des victimes du terrorisme, qui, eux, ne sont pas partie prenante de cette manifestation, même si il faut reconnaître que dans cette manifestation, on a bien, on a eu aussi le souci de se rappeler, hein, de toutes les victimes, pas seulement d'un côté, mais de l'autre aussi. Donc je pense qu'il était préférable, à partir du moment où les deux parties en présence, et de l'autre côté, il y a quand même des victimes du terrorisme qui sont encore très sensibles, hein, et ce qui se peut quand même se comprendre dans les familles, il est préférable de, à la fois d'encourager tout processus de paix, toute réconciliation, qui passe aussi par des demandes de pardon. Hein, et donc je pense qu'il était préférable là, dans ce cadre-là, moi, de ne pas m'engager personnellement. Mais ceci dit, je ne peux qu'applaudir des deux mains, dès lors que je vois qu'il y a un désir qui est pris en charge par les différents partenaires de ce processus de paix, de le faire avancer.
Et le silence des gouvernements français, espagnols, vous le trouvez légitime ?
Ça, je peux pas me prononcer sur cette question-là, car là, je outrepasserai peut-être mon rôle. C'est sûr que la question est encore très délicate. Je vois bien que le gouvernement français n'est pas du tout. Dès lors que politiquement, il pourrait y avoir dans l'esprit, dans la compréhension des choses pour les politiques en responsabilité en France comme en Espagne, un processus d'autonomie du Pays Basque, on peut comprendre, étant donné les gouvernements actuels, que ce soit pas tout à fait leur intention, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont silencieux.
Monseigneur Ayer, nous terminons cette émission avec un bilan de cette année pastorale, et puis peut-être nous parler aussi des propositions pour cet été. Tout d'abord, le bilan, cette fin d'année, les nominations peut-être à venir pour la rentrée.
Alors les nominations, elles sont connues par l'intermédiaire de notre Église. Les prêtres. Notre revue diocésaine, oui. Les prêtres ont été déjà informé évidemment la plupart des mouvements des prêtres qui sont en cours encore, hein, malheureusement il y a des choses qui sont encore pas calées parce que c'est toujours très compliqué, hein. Donc il y a beaucoup de nominations parce qu'il y a des prêtres qui partent à la retraite, parce qu'il y a des prêtres qui s'en vont, parce qu'il y a des prêtres qui arrivent, parce qu'il y a des charges qui se passent de l'un à l'autre, hein. Ça c'est la routine qui devient toujours plus difficile aujourd'hui parce que, comme vous le savez, les ouvriers manquent à la moisson, hein. Nous avons encore beaucoup de prêtres valides et vaillants, comme je le disais tout à l'heure, mais la moyenne d'âge étant assez élevée, il n'y a pas aujourd'hui 69 prêtres qui peuvent assurer la charge curiale dans les 69 paroisses. Donc il faut quand même jongler, hein, et on n'a pas forcément l'embarras du choix pour nommer tel ou tel prêtre à tel ou tel endroit, hein. Donc j'admire la disponibilité des prêtres quand même, d'accepter, après moult rencontres, concertations, ça ne se fait jamais comme ça au déboté, pour aller d'un endroit à l'autre. Hein. Quand on arrive à l'âge d'être prêtre auxiliaire, laisser la place à un curé pour rendre service ailleurs, enfin là où on a besoin encore beaucoup de l'aide du ministère du prêtre. Bon. Le bilan de l'année pastorale est toujours difficile à dire parce que je crois que ce qui se passe de plus important se passe dans les communautés et dans les paroisses, même si c'est important qu'il y ait un lieu de communion, de coordination de l'activité, de stimulation aussi, dans l'ordre de la mission, au niveau du diocèse. Dans l'ordre de la mission, je dirais que je sens qu'il y a un grand désir missionnaire qui gagne beaucoup de communautés dans la pastorale ordinaire, et que certaines initiatives peuvent prendre chair dans certaines paroisses qui le demandent, de plus en plus, en particulier ce que j'ai appelé les missions paroissiales, qui ont eu lieu dans 3 paroisses déjà du diocèse, avec l'aide pour ces 3 paroisses de la communauté Palavra Viva, et avec des bilans qui me semblent très positifs, si j'en crois le compte-rendu qui en a été donné avec beaucoup de ferveur, par les 3 curés concernés au conseil presbytéral dernier.
Donc elles sont appelées à continuer ces missions
Bien sûr, hein, c'est des propositions qui demeurent. La communauté Palavra Viva, mais d'autres communautés, pourraient aider à apporter un petit apport de missionnaires extérieurs qui ne feront pas la mission à la place des communautés, mais aideront une communauté à poser des actes que nous ne posons pas habituellement vers ceux qui sont à l'extérieur de nos assemblées, surtout au bénéfice de la communauté elle-même, dans sa cohésion et dans sa joie d'annoncer l'Évangile. Voilà. Donc je pense que tout ça est très positif, mais tout ça reste effectivement très modeste. Hein. Il n'y a pas de grande révolution, mais il y a des petites touches comme ça qui sont bien dans le sens de l'exhortation apostolique de notre pape François sur la joie de l'Évangile, justement.
Monseigneur, cet été, y a-t-il des rendez-vous pour lesquels vous souhaiteriez inviter les diocésains? Et puis, est-ce que vous partez en vacances?
Alors, moi je partirai pour donner des vacances à mon entourage une quinzaine de jours fin juillet, début août, hein, avant le 15 août, où je serai à Bayonne. Je crois qu'il y a le pèlerinage le 14 juillet, donc à Loyola, oui, plus pour le Pays Basque, évidemment. Plusieurs temps d'évangélisation aussi, pendant les fêtes de Bayonne, hein, avec notre groupe maintenant incontournable Agour Maria, autour de la cathédrale. Également autour du 15 août avec la communauté Ein Carême, qui est déjà venue l'an dernier, autour de la cathédrale aussi. Le festival d'évangélisation d'Annunzio, hein, qui aura lieu à Biarritz, comme depuis 3 ans, du côté de Sainte-Eugénie, fin août. Voilà, et puis aussi la fête de Saint-Michel-Garicoïts à Ibar le dernier mercredi du mois d'août, que je présiderai d'ailleurs cette année. Voilà, donc c'est un peu les grands rendez-vous que je vois a priori, sans compter les autres. Les fêtes locales dans les paroisses, où évidemment c'est l'objet aussi d'une belle mobilisation des fidèles.
Merci beaucoup, Monseigneur Hayé, de nous avoir parlé donc des rendez-vous de cet été. Nous vous retrouverons après l'été pour une nouvelle émission pour les auditeurs de Radio La Pourdie et de Radio Présence que nous saluons. Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Monseigneur Marc Hayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.